Vous écoutez, on lit pour vous.
Le militantisme comme remède au fatalisme. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 22 avril 2025 dans le magazine Fugue. Depuis son adolescence, Albert Lalonde s'est fait remarquer par son militantisme dans diverses causes et plus particulièrement pour son implication dans la lutte contre l'urgence climatique et la justice climatique de manière générale. Ayant contribué à l'organisation de la « Marche pour le climat » du 27 septembre 2019, manifestation qui, selon les membres de l'organisation, est la plus grande de l'histoire du Québec, voire du Canada, cet étudiant en droit fait aussi partie des 15 jeunes qui poursuivent présentement le gouvernement canadien pour que puisse être reconnue sa contribution au changement climatique qui viendrait, de leur point de vue, porter atteinte à l'avenir des jeunes. Qu'est-ce qui te motive à toujours t'impliquer, à ne pas arrêter? Je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais au secondaire. J'ai été aussi élevée comme ça dans une certaine mesure. Mais je pense que dans l'état actuel des choses et du monde, ce qui me drive, c'est que l'espoir, c'est profondément politique. C'est devenu un peu toute ma vie. Il y a un aspect profondément thérapeutique aussi au militantisme, dans l'optique où on est dans un système, une société où on est toujours confronté aux limites de notre pouvoir individuel. Et de soudainement avoir joué un rôle dans la construction de ce mouvement de masse qu'il y a eu en 2019, je pense que c'est devenu presque une addiction. En même temps, ça confronte de façon très directe aux limites de son propre pouvoir. Mais à partir du moment où on renonce, c'est là qu'on a la certitude que les techno-milliardaires fascisants vont arriver à leur fin, pour ne parler que d'un aspect. Donc, c'est la seule chose à faire. Lorsque l'on se fait définir par son militantisme, est-ce que ça crée de la pression? On voit souvent les luttes sociales comme une espèce de don de soi absolu. Et je pense qu'on a souvent tendance à mettre les personnes qu'on identifie comme militantes sur une espèce de piédestal qui les rend inaccessibles. Et je ne parle pas nécessairement de personnes bien connues. Des fois, c'est juste des gens autour de nous qui nous inspirent. Ça fait en sorte que, quand tu es déjà identifié comme militant ou que tu portes ce chapeau-là, on dirait que ça devient vraiment plus difficile de connecter avec le monde. Ça m'arrive tellement souvent de parler avec des gens et ils t'idéalisent d'une bizarre façon. Et souvent, ils vont faire leur propre procès avant même que tu ouvres la bouche. C'est niaiseux, mais des fois, c'est des affaires de genre « Désolé, je sais pas si ça va au recyclage. » Je suis comme « À tel point je m'en calisse. » En rétrospective, y a-t-il une chose en particulier dont tu es fier? J'allais répondre non. On lutte contre des systèmes qui sont tellement plus grands que nous. Je pense que, à la fin, c'est dur d'évaluer l'impact d'une seule personne. Je me suis longtemps effacée derrière le collectif et je ne me suis longtemps pas donné le crédit de mon travail. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je vis un sentiment de fierté à différents moments de ma vie, mais pour moi, c'est vraiment les relations qui sont importantes. Il y a vraiment juste des relations. C'est pas mon crédit à moi, c'est un échange. Penses-tu que la lutte écologique et les luttes pro-LGBTQ+ vont de pair? Je pense que si tout le monde est intéressé juste par ses propres droits et qu'on voit les autres revendications des autres groupes sociaux qui sont visés par les mêmes acteurs comme étant des distractions, eh bien, fondamentalement, on n'ira nulle part. Si on se throw mutuellement under the bus, la convergence des luttes, j'y crois. Je suis allé au secondaire dans Saint-Michel, dans ce qui s'appelle le Petit Maghreb. Il y a cette islamophobie qui fait en sorte que les personnes musulmanes et l'affirmation de leurs droits dans une société qui est censée reconnaître la liberté de culte et les principes de non-discrimination sont perçus parfois comme une menace aux droits des personnes LGBTQA2S+. C'est une espèce de tabou, mais qui est assez répandu. On instrumentalise mes droits pour aller marginaliser et ostraciser les personnes avec qui j'ai grandi dans un climat serein d'acceptation et d'échange. Es-tu optimiste face à l'avenir? Je pense que ça dépend des choix que les gens vont faire, que nos communautés vont faire et que la société va faire. Concrètement, je pense que c'est tout à fait possible de surmonter la situation dans laquelle on est. Il y a une dimension de l'effondrement climatique qui est inéluctable, mais je pense qu'on est capable de vivre mieux si on y fait face et qu'on s'adapte. Et si on a un projet qui est ancré dans la dignité et la justice? J'ai un optimisme réservé, mais je pense que le fatalisme est notre pire ennemi. Le fatalisme est la seule garantie que tout va s'empirer. Quelque chose à ajouter? Particulièrement dans le contexte sociopolitique actuel? En ce moment, je vois beaucoup de monde préoccupé par ce qui se passe aux États-Unis, par Poilièvre, etc. Autant, des fois, c'est fatigant de s'impliquer de façon concrète, mais autant... Moi, dans mon expérience personnelle, il n'y a pas plus misérable que d'être pogné avec ces feelings-là devant son ordinateur. On a une lutte qui s'impose à nous en tant que communauté et on n'a pas le choix de la mener. Ça peut nous apporter des choses et ça peut nous rendre plus forts. Je pense que ce qu'il y a de plus triste, c'est de rester dans notre espèce d'aliénation individuelle et de devoir dealer avec ça tout seul. C'était « Le militantisme comme remède au fatalisme », une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 22 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Folle matière en vie, une chronique d'Elsa Pépin, parue le 7 avril 2025 dans les libraires. Écrivaine réputée pour ses autofictions érotiques et ses récits d'expériences sexuelles, comme son travail dans un bordel berlinois, décrit dans La Maison, Emma Becker n'était disposée en rien à tomber amoureuse d'Antonin de Quincy d'Avricourt, cet écrivain anard de droite, dont l'appartement rue de Bussy a tout de la coquetterie et du prestige de la haute société parisienne à laquelle elle n'appartient pas. Mais la passion ne naît-elle point toujours dans l'alliance improbable de deux êtres qui se trouvent sans se chercher, dans l'attrait irrésistible que prennent les choses interdites? Dans « Le mal joli », Becker dissèque l'histoire d'un adultère et du cycle infernal qui le constitue, moment de grâce incandescente, aussitôt troqué par une descente aux enfers de l'attente et de l'angoisse de la distance. Entre la jouissance et le drame, ce vaudeville amoureux suit la course trépidante d'amants qui rivalisent de ruse pour se retrouver dans les rues de Paris. On suit Emma, esclave du désir, ses déchirements intérieurs. Mais avant d'admettre d'aimer, elle prétend documenter la passion qui est plus un drame qu'un miracle, nous rappelle-t-elle avec raison. Dans ce contexte, Antonin, c'est de la documentation, lance-t-elle, vite dépassée par son sujet. On dirait que je n'apprends rien, ni des hommes ni des livres. Je pourrais me satisfaire d'être bien baisée. C'est l'apanage des femmes libres. Et qu'est-ce que je suis, moi, si au bout de deux rendez-vous, j'ai l'impression de l'aimer? L'amour est-il donc incompatible avec la liberté et le féminisme? Et malgré ce drame de la passion qui ne dure guère, on recommence parce que, comme le mal joli qui désigne l'accouchement, sitôt qu'il est fini, on l'oublie. Le mal joli révèle avec prouesse les angles morts du désir et les complexes circonvolutions qu'une femme fait avec ses principes pour être souveraine, jouisseuse, féministe, mère et mariée. Reprenant avec beaucoup d'adresse et d'humour les grands questionnements sur le bonheur et le plaisir, le mariage et ses écueils, la torture et l'inquiétude intimement liées à la passion, forme heureuse d'empoisonnement, certes, mais aussi palpitante résurrection, Becker offre un roman aussi divertissant que profond qui mêle les registres avec audace et sincérité. De sa prose tranchante et pleine d'autodérision, elle livre des scènes crues d'une sexualité débridée, d'autres plus sentimentales, d'une vérité désarmante, et d'autres encore, des plus triviales, notamment avec ses deux enfants en bas âge. Sans tabou, Becker développe une pensée philosophique incarnée dans l'émotion, le corps, la vie, et raconte la lente guerre qu'elle essaie de mener à son cœur qui flanche. Grande jouisseuse, elle aime morceler sa personne, la recomposer et l'éclater à nouveau, cherche à saisir la matière devenue folle, à la fixer par l'écriture avant qu'elle ne s'enfuit. Cet amour éteint, sera-t-il un jour sauvé par le livre? Peut-on suivre son désir sans détruire sa vie ou la détruire sans le regretter? Il ne s'agit pas de faire aveuglément confiance à l'existence, mais à nous-mêmes. Un jour, nos principes s'aligneront avec nos envies, conclut avec splendeur la romancière. Aussi indocile que sage philosophe, Becker désarçonne par sa franchise et son ode à une folle matière en vie, cette part qui aime l'amant, une fraction démente de soi qui mène au chaos, mais n'empêche pas de rester souveraine. La liberté impunie. La romancière et traductrice française Julia Kerninon, réputée pour ses personnages de femmes libres, dont les inoubliables héroïnes de Liv Maria et de Sauvage, propose une promenade inspirante avec Gertrude Stein dans « Le passé est ma saison préférée ». Cet essai très personnel mêle souvenirs et citations, se veut une réflexion sur l'écriture, mais aussi un hommage à l'audace littéraire et à la force du passé. Kerninon retrace le parcours de Stein pour obtenir la reconnaissance littéraire. Celle qui reçoit et conseille tous les jeunes artistes et écrivains du Paris des années 1920 et 1930, intimement liée à Picasso et à Hemingway, qui sera l'objet d'études de Kerninon, connaît le succès avec « Autobiographie d'Alice B. Toklas ». Ce livre fera sa gloire, mais aussi son péril, l'amenant au sommet, faisant d'elle une personnalité publique avec la pression que cela comporte. Dans ce livre, Stein cherche à comprendre le passé, à s'en ressaisir et à le faire sien, rappelle Kerninon. C'est sans doute une des premières fois où une femme ose faire ça, décrire un monde qui tourne autour d'elle, un monde qui dépend d'elle, un monde où elle est considérable, majeure, capable. L'écrivaine française lit Stein quand elle a 20 ans. L'autobiographie d'Alice Betoklas, où l'écrivaine féministe américaine se raconte en passant par le récit de son amoureuse, frappe l'imaginaire de la jeune étudiante. C'était le premier livre que je lisais où une femme adulte s'en sortait, ne se soumettait à personne, ne finissait pas par être punie pour sa liberté, ne mourait pas romantiquement dans d'atroces souffrances. Ni Anna Karénine, ni Emma Bovary, ni Scarlett O'Hara. Ce livre est un chef-d'œuvre parce que Stein réussit à faire chanter ses obsessions, réunit tout ce qui l'anime et l'exprime dans des phrases simples qui la rendent accessible, croit Kerninon. Stein, qui aura cherché toute sa vie à révolutionner la langue par une prose exigeante, rigoureuse, algébrique, s'offre dans un élan où elle est simplement elle-même. Pionnière en ce qu'elle s'empare de la narration pour raconter son histoire, Gertrude Stein marque ce moment où l'entrée des femmes dans la littérature s'accompagne aussi d'un bouleversement de sa forme, nous apprend qu'il est possible de refuser la structure narrative et sociale qui nous est imposée et de faire les choses autrement. Nous pouvons établir une nouvelle forme d'héroïsme avec ses propres lois, poursuit Kerninon, qui a elle-même imaginé dans ses livres des femmes libres, assumées et désobéissantes. Bouleversée par la façon dont le passé nous revient sans cesse sous une forme nouvelle, comme s'il nous poursuivait ou nous devançait, l'essayiste rappelle que le passé est aussi nécessairement la fiction. Les histoires seraient une manière d'essayer de mettre de l'ordre dans le chaos de la vie, ajoute-t-elle. Stein disait que le plus amusant dans la littérature est quand elle possède la vitalité de la lutte. On présume que la lutte d'Emma Becker dans Le Mal joli n'aurait rien pour lui déplaire. C'était Folle matière en vie, une chronique d'Elsa Pépin, parue le 7 avril 2025 dans Les libraires.
Puis, Madeleine est arrivée. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 avril 2025 dans La Presse. Richard de Perron était prêtre depuis 9 ans quand il a débarqué à l'abbaye de Rougemont pour réfléchir. Le père abbé, le chef des moines cisterciens, lui a dit, taquin, « Bel âge pour vivre une crise ». C'était en 2011, il avait 40 ans. « Je voulais lui arracher la tête », me dit Richard. « Pourquoi ?»« J'aimais pas la crise que je vivais. J'avais une belle vie, un parcours tranquille. Je donnais ma vie à Dieu, puis... » Puis, un jour, Madeleine, une paroissienne, est arrivée. Ils se sont rapprochés. Ils se sont avoués leurs sentiments réciproques. Ils ont tenté de se raisonner. On va rester amis. Mais intérieurement, c'est toute la conception de la vie du prêtre, de sa propre vie pourtant inébranlable, qui a vacillé. Il s'est ouvert sur ses doutes au diocèse. Le cardinal Turcotte a été compréhensif au possible. Le diocèse lui a payé un psy. Richard voulait que le psy lui fournisse un remède, mais le psy lui a dit « Pas si vite, on va jaser, ouvrir des portes. » séjour de quelques mois au monastère, thérapie, à rien n'y fit. Je m'excuse de citer encore Cohen, il me semble que c'est la troisième fois en quelques semaines, mais le poète montréalais a dit trop de choses justes sur la vie. « Ain't no cure for love ». Mon cœur me disait « C'est Madeleine l'amour de ta vie ». Je ne pouvais plus être prêtre. Depuis des années, autour de Pâques ou de Noël, je me dis « Je devrais relancer Richard pour parler de la foi ». En 2020, on devait la faire, cette conique sur la foi d'un ex-prêtre. Puis la pandémie est arrivée. J'ai connu Richard en 1984, à notre première année au secondaire. Souvenir, un garçon sociable, souriant, sportif, me semble. Religieux, croyant, aucun souvenir de ça. En 2002, le 31 mai, se souvient-il précisément, Richard de Perron devenait prêtre après 5 ans d'études, à 32 ans. Sa vie était alors tracée. Le service aux paroissiens, à Dieu, une vie à répandre la bonne nouvelle selon la formule biblique. Il allait mourir prêtre, c'était clair pour lui. Il aimait cette vie, le contact avec l'humain, écouter, conseiller, agir, faire du bénévolat. Il avait des certitudes face à la vie. La ligne de parti de l'Église, il ne la remettait pas en question, car interagir avec les paroissiens, c'était aussi tenir la ligne de parti. Sur tout ce que l'Église tient pour vrai ou faux. Puis un jour, Madeleine est arrivée. Te souviens-tu de la première fois que tu l'as vue? Oui. C'était à la messe. Je l'ai encouragée à devenir bénévole. Madeleine est devenue bénévole à la paroisse. Elle a pris de plus en plus de place dans la vie du prêtre. Je la trouvais belle et fascinante. Ils n'ont pas pu rester amis. D'où la crise existentielle de Richard. Dieu ou l'amour? Richard ne dit pas le mot « résurrection » pour expliquer ce qui s'est passé après 2011. Il parle de « se rebâtir ». Avant, je croyais suivre la vérité, une vérité objective, universelle. Aujourd'hui, je suis plus dans les questions sur le sens de la vie, incluant Dieu. Dieu, c'est plus une question qu'une affirmation désormais. J'ose croire qu'il existe, mais je suis loin d'en avoir la certitude. Il n'y a pas de preuve qu'il existe. Il est encore avec Madeleine, et il n'a pas de doute, ils se sont mariés, ont eu un garçon, Samuel. Richard se considère comme le père aussi de la fille Amélia, de sa femme. Et ta vie, comment elle a changé? Je me suis décloisonné. Je me suis émancipé. Je juge moins. Je n'ai plus à tenir la ligne de parti. J'accompagne l'humain dans toutes ses questions existentielles. Richard est devenu intervenant en soins spirituels dans un CIU 3S de Montréal. Il œuvre dans 4 CHSLD. Mon travail, dit-il, c'est d'accompagner l'humain. Je n'ai pas à trouver une solution pour eux, ni à prêcher la bonne nouvelle. Juste les écouter, les aider à réactiver une force intérieure. Des fois, c'est écouter une dame qui sait que la fin est proche et qui cherche les mots à écrire à ses enfants. L'aider à les trouver, les mots. Des fois, c'est accompagner les enfants d'un homme en CHSLD qui ne savent pas comment accepter la fin qui est proche. Qui veulent refermer de vieilles blessures, éteindre des culpabilités. Des fois, c'est aider une personne âgée à accepter son arrivée en CHSLD, le deuil de son ancienne vie de personne autonome. C'est là que l'intervenant en soins spirituels débarque. « On a du temps, dit Richard. Chaque parcours est tellement unique. » Il me dit ça. « Chaque parcours est tellement unique » et il ne réalise pas que le sien l'est unique. Il est sincèrement ébahi par les parcours de vie des autres. Les gens vivent de grandes choses sans s'en rendre compte. Je les aide à voir ça, je suis privilégié. Ça ressemble à la prêtrise. J'essaie d'être un tuteur de résilience, dit-il. Richard se lance alors dans ce qu'il qualifie lui-même de « cri du cœur » face à son métier d'intervenant en soins spirituels. C'est précieux ce qu'on fait, je pense. Le système est très bon pour soigner le corps, mais il ne faut pas perdre de vue l'unicité, la dignité de la personne. Je ne dis pas que les médecins, les préposés, les infirmières ne sont pas humains, mais nous, les intervenants, on est formés pour cette écoute. J'ai rencontré Richard vendredi. Vendredi saint. Es-tu encore croyant? Il hésite, il a un rire nerveux. Tu me poses une question embêtante. Oui, Jésus m'inspire. Je suis ouvert au bouddhisme, à d'autres religions, mais c'est l'humain sur lequel je m'appuie le plus. Tiens, Madeleine a le cancer. Quand je l'ai appris, ce fut un choc. Mais j'avais aussi la certitude que quelque chose de beau allait en ressortir. J'ai oublié de vous dire, Madeleine a été frappée par le crabe. Cancer agressif, traitement agressif. Pas facile ces jours-ci. Tout au long de l'entrevue, tout revient toujours à Madeleine quand Richard me parle de son parcours. Même après l'entrevue. Je cherchais une conclusion à cette chronique qui devait porter sur la foi. Je bûchais, je réécrivais et je remaniais quand Richard m'a écrit, après que je lui ai posé une question sur Madeleine par texto. Sa réponse sera la chute de ce qui est devenu, je pense, une chronique sur l'amour plutôt que sur la foi. Chaque jour, je mesure la chance de l'avoir dans ma vie. Elle m'a aidé à être l'homme que je suis. Je ne vois pas mon avenir sans elle. L'épreuve du cancer est un choc, un combat pour la vie. Elle ne l'a pas choisi, elle y fait face avec courage, mais je réalise combien tout ce que je croyais inébranlable peut vite être enlevé. C'était, puis Madeleine est arrivée. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 avril 2025 dans La Presse.